Chapitre 6. Les cendres tombaient sans interruption. Les plus dures crissaient sur la baie vitrée. La couche atteignait maintenant plus de 50 cm dans la cour intérieure. Des avalanches grisâtres dégringolaient de temps à autre du toit. Dispersées par le vent, elles formaient un brouillard épais qui se déposait lentement sur les reliefs. La température n'avait cessé de baisser, poussant Alice et les enfants à allumer l'un des trois poêles de la grande salle, le plus proche de la cuisine. Ils se tenaient tous les trois près du foyer ronflant, perdant peu à peu la notion du temps. Alice levait régulièrement les yeux sur la pendule. La course des aiguilles lui paraissait incohérente, tantôt accélérée, tantôt ralentie. Elle avait craint un moment que le haut de la cheminée ne soit complètement bouché, mais, prévoyant, les hommes de l'arche avaient posé un chapeau chinois qui protégeait le conduit. S'ils voulaient économiser les bûches, il leur fallait maintenant restreindre leur espace. Demeurer le plus près possible de la source de chaleur, manger, dormir dans la même pièce, à proximité de la cuisine et de l'entrée de la cave. Le confinement leur permettrait également d'épargner l'éclairage, et donc la réserve de gazole du générateur. Ils étaient entrés dans la phase 3 de la procédure, le mode survie, ou hibernation. Volets et portes fermées, interstices calfeutrés, déplacements limités aux allers et retours entre la pièce de vie, la cuisine et la cave. On se contenterait d'une douche par semaine, rapide et à l'eau tiède. Le reste du temps, on se laverait, si on le souhaitait, avec de l'eau froide ou légèrement réchauffée sur un coin du poêle, s'il y avait de la place. On aurait aussi besoin du ou des poêles pour la nourriture, la lessive et les boissons chaudes. Alice avait donné un quart de tour aux deux manettes situées dans la cave près du compteur d'eau. La maison était dorénavant alimentée par le puits. Franks avait estimé que l'eau du robinet se tarirait rapidement, et que même si les tuyaux résistaient quelque temps aux secousses telluriques, elle serait contaminée par toutes sortes de pollutions consécutives à la destruction des structures de contrôle et de purification, chimiques, bactériologiques, radioactives. Les probabilités seraient supérieures de s'en sortir avec l'eau du puits, potable, à en croire les derniers contrôles, et purifiée par des filtres à charbon installés sous le robinet de la citerne. Alice la contrôlerait tous les jours, à l'aide d'un petit appareil importé du Canada. Quand les filtres ne suffiraient plus, elle recourrait au dispositif d'urgence sanitaire prévu pour la phase 5. Pompe diesel, sable fin, charbon actif, hypochlorite de sodium. Le même que les secours utilisaient lors des tremblements de terre ou des inondations. Elle se postait régulièrement devant la baie vitrée et fixait jusqu'au vertige les arabesques des cendres. Les assauts rageurs du vent soulevaient des tourbillons gris qui traversaient la cour intérieure et se pulvérisaient contre le mur d'enceinte. Même si les chances étaient nulles que Franks puisse survivre dans un environnement livré à l'obscurité, au froid et au chaos, elle ne pouvait pas s'empêcher d'espérer. Elle n'aurait jamais cru qu'il lui manquerait à ce point. Elle regrettait amèrement d'avoir ouvert son lit et ses bras à Jim. Le parasite l'avait saillie dans la cave comme un animal, par derrière, l'empêchant d'une main fermement appuyée sur sa nuque de relever la tête, comme pour la dominer de toute sa hauteur et la maintenir dans une position humiliante. Par chance, il avait joui rapidement. Et comme il n'était pas du genre à s'embarrasser de tendresse, il s'était éclipsé après avoir repris son souffle et remonté son pantalon. Elle avait mis du temps à se relever, les reins brisés, les larmes aux yeux, dégoûtée d'elle-même. Puis elle s'était ressaisie et avait rajusté ses vêtements en s'efforçant d'oublier sa détresse et sa nausée. Elle devait réfléchir à la meilleure manière de repousser Jim tout en préservant ses enfants. Elle ne connaissait pas grand-chose en médicaments, mais elle consulterait le Vidal piqué par Vito dans le bureau d'un praticien et trouverait peut-être dans la pharmacie de quoi réfréner les ardeurs du prédateur. Le poêle ronronnait comme un gros chat et diffusait une douce chaleur sur un rayon d'une dizaine de mètres. Ses rougeoiements s'associaient aux flammes des bougies disposées en divers endroits de la pièce pour dispenser un éclairage ténu, tremblotant. Au-delà, guettait le froid. La bête, tapie dans les ténèbres, est prête à mordre. Les sifflements du vent transperçaient le silence comme des fantômes hurlants. Selon l'inventaire dressé par Alice, les réserves alimentaires prévues au départ pour 17 personnes leur permettraient de tenir plus d'une dizaine d'années. On n'aurait donc pas besoin de rationner les vivres, mais de se montrer le plus économe possible en bûches, en gazole, en filtre à eau, et, si les cendres recouvraient la maison, en oxygène. « Il fait trop froid dans les chambres, » dit-elle. « À partir de maintenant, nous dormirons tous dans cette pièce. » Les enfants, qui n'avaient pas ouvert la bouche depuis un bon moment, lui lancèrent des regards inquiets. « Je vais démarrer le générateur pour qu'on puisse avoir de la lumière et transporter les lits jusqu'ici. » Et les vêtements, on les emmène aussi ? Demanda Zoé. Et les livres ? Tout ce que vous pouvez. À partir de maintenant, on restera le plus possible près du poêle. Pourquoi on n'allume pas les autres ? Intervint Théo. On le fera quand la température sera encore descendue. Pour l'instant, un seul suffira. Zoé hésita avant de poser la question qui visiblement la tracassait. Et Jim ? Il dormira ici, lui aussi ? S'il veut pas mourir de froid, il n'aura pas le choix. Il devrait partir. Le maître dehors, c'est le condamné à mort. Moi, ça me dérangerait pas. Zoé posa le menton sur ses genoux serrés, la tête légèrement penchée sur le côté. Tu admets donc que papa n'a aucune chance de s'en sortir ? Alice s'efforça de donner un minimum de fermeté à sa voix. Il a un avantage sur les autres. Il avait prévu que ça arriverait. Il aura sans doute les bons réflexes. Même avec les bons réflexes, moi je dis qu'il tiendra pas longtemps dehors dans un tel froid. Sauf s'il trouve un abri. Zoé eut une moue dubitative. Avec de la nourriture, de l'eau, du chauffage ? Je suis sûr qu'il reviendra, dit Théo d'une voix forte. Tu l'as déjà dit, microbe. Il se renfrogna et s'absorba dans la contemplation des braises qui rougeoyaient au travers de la vitre du foyer. Alice se leva. Le froid profitait des moindres gestes pour se glisser dans les replis des vêtements, se couler sur la peau. Je vais démarrer le générateur. Une fois l'électricité rétablie, ils commencèrent par la chambre de Théo, la plus éloignée. Ils traînèrent son lit à une place dans la grande salle, l'installèrent à 3 ou 4 mètres du poêle, sélectionnèrent les vêtements et les livres qu'ils entassèrent dans 2 sacs poubelles, tirèrent l'armoire vide qu'ils placèrent en paravent sur un côté du lit et enfin posèrent ses affaires de toilette sur la table de chevet. Ils firent la même chose pour Zoé, dont le lit double se révéla nettement moins facile à manier. Elle mit un temps fou à choisir ses vêtements, bien que sa mère lui enjoignît de se presser afin d'économiser le carburant du générateur. « Si t'as besoin de quelque chose, tu pourras toujours aller le chercher dans ta chambre. Tu parles, dans peu de temps, tout sera gelé dans cette baraque. » Ils parvinrent à traîner la lourde armoire en bois massif en la faisant glisser sur des patins et à la disposer entre les lits de Théo et de Zoé. Puis ils se rendirent dans la chambre d'Alice, où ils tombèrent sur Jim, endormi, enfoui sous une quadruple couche de couverture et de duvet. Alice le secoua par l'épaule. « Lève-toi, on transfère les chambres dans la grande salle. » Jim ouvrit un œil, poussa un grognement de protestation et tira un coin de duvet sur son visage. Elle le secoua de nouveau, plus rudement. Il se redressa avec la vivacité d'un coq, ébouriffé, les yeux hors de la tête. « Laisse-moi dormir, putain ! Debout, la température va encore baisser et on pourra pas chauffer toute la maison. Y a rien qui presse, non ? Vous ferez ça plus tard ?»« Maintenant !» cracha Zoé. Alice ne savait pas si elle devait se réjouir ou se désoler de l'audace de sa fille, que Jim fixait d'un air à la fois ahuri et menaçant. « Sinon quoi ? » murmura-t-il entre ses lèvres minces et serrées. « Sinon tu risques de plus pouvoir te relever. » Il la maintint dans le faisceau de ses yeux exorbités comme un lapin dans les phares d'une voiture, puis il esquissa un sourire. « Si c'est pour ma santé, alors c'est différent. » Il repoussa les couvertures, se leva, s'étira. Et dévoila sous sa chemise et son pull relevé des jambes maigres, des fesses creuses et un attirail viril qu'il exhiba un long moment avant de rabattre bras et vêtements. Alice se demanda comment elle avait pu se laisser toucher par ce type. Il enfila avec une lenteur étudiée ses chaussettes, son caleçon et son pantalon. « Il y a quelque chose à bouffer, je meurs de faim. Il y a un reste de confit dans la casserole. Tu n'as qu'à le mettre à réchauffer sur le poêle. »« Le poêle, il reste du gaz, non ?» On est passé en mode survie. À partir de maintenant, on gaspille plus rien, d'accord ? Il la dévisagea d'un air sarcastique. T'as pris la place du grand maître, tu parles comme lui. Putain, c'est vrai que ça caille. Tu nous aides pas à transporter le lit ? Demanda Zoé. Je vous laisse faire. Ce sont vos affaires, hein, et je voudrais surtout pas les abîmer. Il sortit de la chambre en abandonnant derrière lui une odeur âcre qu'Alice aurait reconnue entre 1000. L'odeur du cauchemar. « Quel sale con !» marmonna Zoé. « Y a plus personne ici pour lui faire la peau. »« Zoé !» protesta Alice. Mais elle savait au fond d'elle que sa fille avait raison. Que ce serait un jour sa peau ou la leur. Après avoir recensé les médicaments de l'armoire à pharmacie, Alice avait ouvert le vidal pour voir si elle pouvait chimiquement mettre Jim hors d'état de nuire. La plupart des molécules étaient des traitements d'urgence, qui, malgré quelques effets secondaires indésirables, ne pouvait en aucun cas neutraliser un homme dans la force de l'âge. ils avaient installé le lit d'Alice en face de ceux de Théo et de Zoé, dont ils n'étaient séparés que par le poêle et le tuyau horizontal qui se jetait dans la cheminée. Elle s'était dit que la promiscuité suffirait peut-être à tenir le parasite à l'écart. Mais bien qu'elle l'en eût prié à plusieurs reprises, il n'était pas allé chercher son propre lit dans sa chambre. Comme s'il ne jugeait pas utile de s'aménager un coin. Comme s'il allait de soi que sa place était déjà réservée auprès d'elle. Il avait râlé parce qu'il n'y avait presque plus d'eau chaude et réclamé qu'on allume le générateur afin de mettre le ballon sur marche forcée. Alice avait déclaré d'une voix déterminée que désormais les douches ne se prendraient qu'une fois par semaine et que s'il tenait à se laver, il devait remplir une bassine en fer qu'il pouvait poser sur le poêle à condition qu'il y eût encore de la place. Il avait maugréé avant de disparaître. Puis il était revenu à la charge quelques instants plus tard, en vitupérant qu'il avait besoin d'une douche maintenant et que c'était complètement crétin de vouloir à tout prix économiser le gazole alors que la tempête de cendres allait sans doute bientôt s'arrêter, le jour revenir, les choses s'arranger. Alice avait un avantage sur lui. Elle seule connaissait le code du générateur et elle n'avait pas l'intention de le lui révéler. Elle n'avait pas cédé, malgré son ton menaçant. Il en avait donc été réduit à remplir une bassine en fer blanc qu'il avait posée sur le poêle. Puis, il s'était vengé en se lavant dans la lumière rougeâtre du foyer, au vu et au su de tous, insistant de façon obscène sur ses parties intimes. Négligeant d'essuyer les traces d'eau qu'il avait semées autour de lui, il s'était allongé d'autorité, après s'être rhabillé, sur le lit d'Alice. Elle avait lu un article sur les parasites, cafards, souris et autres bêtes charmantes qui s'invitaient dans les maisons. Leur comportement correspondait point par point à celui de Jim. Une effraction discrète, une reconnaissance craintive, une présence de plus en plus affirmée, une assurance qui devient de l'audace, puis une occupation totale. Jim en était au stade de l'audace. Si elle n'agissait pas, il régnerait bientôt en despote sur le feu de Dieu. Peut-être que si... Oui, ça pouvait peut-être marcher. À condition que Zoé présente les mêmes symptômes, ou le prédateur se rabattrait sans vergogne sur elle. Elle devrait seulement refaire régulièrement les marques que ne manqueraient pas d'effacer les frottements des vêtements. Une pointe métallique, une aiguille ou un couteau pour fabriquer quelques égratignures, quelques croûtes, un crayon rouge pour le reste. Alice se demanda si la menace ne se déplacerait pas sur Théo. Jim n'avait pas l'air attiré par les petits garçons, mais on ne savait pas ce qui passait par la tête d'un détraqué en manque. Si elle pressentait le moindre risque, elle se dévouerait de nouveau pour protéger son fils, jusqu'à ce qu'elle trouve une solution expéditive. Elle s'assura d'un regard que Jim dormait et se rendit près de Zoé, plongée dans la lecture d'un magazine sur les célébrités. Un monument d'absurdité dans les circonstances.